premier sur l'info, le journal
avec MCM,
présenté par Antoine Samoyo.
Bonjour Antoine, on commence par les titres de ce journal.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Un système éducatif jugé coûteux, des résultats jugés insuffisants. Le rapport annuel de la Cour des comptes consacre une vingtaine de pages à l'enseignement en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Le constat n'est pas très reluisant. 35% des élèves d'une même classe d'âge sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification en Polynésie, contre 20% en Nouvelle-Calédonie et 10% seulement en métropole. L'humoriste Elie Semoun à Tahiti pour deux dates, les 23 et 24 mars prochains. C'est un événement radio, et on en parle dans ce journal. Enfin, comment décrocher un job en période de crise? C'est la question qui se pose depuis ce matin au forum étudiants-entreprises à l'université. Cédric Valax a rencontré ce matin les professionnels des ressources humaines présents sur place. Il nous donnera les clés pour réussir son entrée dans la vie professionnelle.
On démarre avec la Cour des comptes qui parle de l'éducation en Polynésie.
Cette nuit, le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, a rendu public son traditionnel rapport annuel. Et cette année, une insertion concerne la Polynésie. Plus précisément, il s'agit d'une étude portant sur le système éducatif au Fénois et en Nouvelle-Calédonie. Le constat est assez sévère et se résume globalement en deux points pour les collectivités d'outre-mer. Les dépenses de l'État sont conséquentes, mais les résultats ne suivent pas. En effet, la dépense scolaire moyenne de l'État est de 919 000 francs par élève en métropole, contre 980 000 francs par élève en Polynésie et 1 250 000 francs par élève en Nouvelle-Calédonie. Pour autant, 83% des élèves d'une même classe d'âge atteignent le niveau du bac en métropole, contre seulement 55% en Nouvelle-Calédonie et 54% en Polynésie. Et côté décrochage scolaire, nous sommes vraiment les cancres. 35% de ces élèves sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification pour la Polynésie, contre 20% en Nouvelle-Calédonie et seulement 10% en métropole.
Mais la Cour des comptes explique qu'il y a quand même des spécificités locales.
Oui, la Cour explique ces disparités par des spécificités notamment historiques et géographiques en Polynésie. Au Fénois, la maternelle n'a été généralisée qu'en 1977 et les collèges n'ont été créés dans les îles que dans les années 80. Par ailleurs, la répartition de la population dans les archipels joue sur l'efficacité du système scolaire. Des régions, je cite, moins peuplées, plus pauvres et plus marquées par l'utilisation d'une des quatre principales langues polynésiennes.
Et c'est d'ailleurs également le constat du haut-commissaire.
Effectivement, le représentant de l'État, Lionel Beffre, a réagi brièvement ce matin à la publication de ses conclusions par la Cour des comptes. Il estime qu'il faut faire preuve de prudence avec les comparaisons avec la métropole. On l'écoute au micro de Cédric Valax.
C'est vrai qu'il y a de l'argent, les résultats ne sont pas là, mais il y a quand même des explications techniques qui font que les comparaisons, si vous voulez, même si elles sont utiles, entre ce qu'on observe en métropole et ce qu'on observe en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie ne sont pas toujours raison, puisqu'il faut quand même tenir compte ici d'un certain nombre de facteurs comme l'éloignement, les difficultés d'hébergement, la difficulté aussi pour les étudiants de s'adapter à un nouveau contexte pour ceux et celles qui viennent des archipels. Donc si vous voulez, il faut manier les comparaisons malgré tout avec une certaine précaution.
Lionel Beffre qui annonce travailler avec le pays, excusez-moi, à la construction de logements supplémentaires pour les étudiants.
Ça va aller ?
Ça va très bien se passer. On peut enchaîner, Alexandre, puisque
très bien. L'info du jour, c'est ça. Bon, j'ai un peu décontenancé. L'info du jour sur Radio 1, c'est l'avenue de l'humoriste. Ça, c'est pour ça. Elie Semoun pour la première fois à Tahiti.
C'est exactement pour ça. Deux dates à ne pas rater, en tout cas. Ce sera les 23 et 24 mars sur le moto de l'Intercontinental Tahiti. Un événement organisé par Radio 1. Elie Semoun qui présentera son tout dernier one-man show intitulé À partager. L'humoriste révélé par son duo avec Dieudonné, puis par ses petites annonces et ses personnages caricaturaux, excusez-moi. C'est l'humour déjà avant l'heure d'Elie Semoun, a justement créé une galerie de tout nouveaux personnages, un nouveau spectacle qui promet donc une bonne tranche de rire. Sachez que les billets sont d'ores et déjà en vente dès aujourd'hui dans les magasins Carrefour de Punoia et Aroué, à Radio 1 Paléouté et sur la billetterie en ligne au www.radio1.pf.
On parle santé également avec les médecins qui menacent d'une grève.
Depuis 2013, le syndicat des praticiens hospitaliers de Polynésie tire la sonnette d'alarme auprès des différents ministres de la Santé. Ceci pour réclamer l'embauche d'un médecin anatomopathologiste au CHPF de Taonnet. Jusqu'en décembre dernier, ces médecins étaient au nombre de 4 sur le Fénois, 2 dans un cabinet libéral dont un a pris sa retraite, un au CHPF et un autre à l'Institut Louis Malardé. Mais depuis... Extrêmement difficile avec Cédric Vallax et Alexandre Tallercio dans les studios. Mais depuis la fermeture, excusez-moi, du cabinet, ils ne sont donc plus que deux à exercer. Le syndicat des praticiens hospitaliers demande donc au pays d'embaucher le deuxième médecin qui travaillait dans le cabinet médical pour qu'il assume le deuxième poste au CHPF, un poste inoccupé depuis 2 ans. Le syndicat annonce qu'il est prêt à utiliser tous les moyens pour se faire entendre, même pendant la visite du président de la République François Hollande. Écoutez Marc Lévy, il est au micro de Vaïté Ourar-Ipambrin.
Malheureusement, c'est la loterie. Pour certains, il n'y aura aucune conséquence, parce qu'il n'y aura pas de pathologie grave. Et la loterie, c'est qu'on ne sait absolument pas s'il ne peut pas y avoir justement des conséquences. Ce qui semble difficilement acceptable, c'est d'avoir ce doute.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ce problème n'est pas réglé avant la fin du mois, vous allez manifester lors de la venue de Hollande.
Il n'y a aucun dialogue social avec le ministère de la Santé et le ministère de la Fonction publique, qui sont nos ministères de tutelle. C'est-à-dire qu'on envoie des courriers, à chaque fois c'est lettre morte, il n'y a pas de réunion possible. Et donc la vocation d'un syndicat, c'est le dialogue social, et on connaît très bien les moyens syndicaux pour obliger le dialogue social.
Et donc,
les moyens,
manifester contre
les moyens syndicaux pour obliger le dialogue social, c'est le préavis de grève et la grève. Il n'y en a pas d'autre solution.
Quand Hollande sera là ?
Effectivement, là, le fait d'avoir fait monter la pression chez les médecins, qui montent d'ailleurs plus souvent pour des raisons médicales que pour des raisons sociales, va me mettre en très bonne situation pour proposer à mes collègues un mouvement social dans les prochaines semaines si on n'obtient rien du tout de ce qu'on demande.
Et le syndicat des praticiens hospitaliers semble en tout cas savoir utiliser le calendrier des visites officielles à son avantage. Sa dernière grève au CHPF remonte au mois de février 2015, soit 2 semaines avant le passage de la ministre des Outre-mer Georges Pau-Langevin en Polynésie.
Merci Antoine, on marque une courte pause dans ce journal à 12h07. Vous écoutez Radio 1, retour de l'info dans un instant.
Premier sur l'info.
On reprend pour parler économie avec le climat des affaires qui repart à la hausse.
L'Institut d'émissions d'outre-mer, l'IEOM, vient de publier les premières tendances du climat des affaires pour le 4e trimestre 2015. Un climat qui poursuit son orientation favorable, prolongation de la défiscalisation jusqu'en 2025, vote du budget du pays, un léger mieux qui est de bon augure mais qui n'est pourtant pas encore le signe d'une reprise franche, explique le directeur de l'IEOM, Pierre-Yves Lebihan.
Voilà, c'est depuis 2 ans, on a quand même perdu beaucoup de niveaux d'activité hein, en 4 à 5 années de crise. Depuis 2 ans, malgré tout, voilà, le niveau global s'améliore, c'est-à-dire que on a cessé de baisser, on améliore légèrement. En 2014, on pense que le PIB a évolué de 14%. 2015, sans doute que ce sera un peu le même niveau, mais on n'est pas à des niveaux de reprise économique.
L'enquête a été réalisée sur 200 grandes entreprises TPE et PME en les questionnant sur leur trésorerie, leurs charges et leurs intentions d'investissement. 3 domaines pour lesquels les entreprises sont satisfaites au 4e trimestre 2015 grâce à l'amélioration de leur activité. Pour autant, un point noir persiste, les intentions d'embauche dans les entreprises qui sont revues à la baisse.
Quand je parle d'une amélioration, une légère amélioration de l'activité, on est sur des niveaux quand même assez faibles et surtout on n'est pas à des niveaux de reprise ou de relance économique. Une relance économique, c'est quand vous avez un horizon dégagé avec des pistes, donc des ressources propres créées, etc. Ce qui vous permet, vous, d'embaucher puisque vous estimez que vous allez avoir une augmentation de votre chiffre d'affaires suffisante pour couvrir vos charges. Aujourd'hui, on n'en est pas là.
Pierre-Yves Lebihan qui était interrogé par Valentine Bluet.
On termine ce journal en parlant emploi avec le forum étudiant entreprise à l'université.
Décrocher un job en période de crise, c'est la question qui se pose depuis ce matin sur le campus de Outumauro. 35 entreprises accueillent jusqu'à demain les étudiants et les diplômés pour leur présenter leur cœur de métier et les guider dans leur projet de carrière. Des étudiants en quête de solutions pour entrer dans la vie active et on le sait, bien souvent les diplômes ne suffisent plus. Cédric Vallax était donc sur place pour glaner quelques principes clés qui peuvent vous aider à trouver un emploi. Cédric, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors trouver un emploi, ça commence par quoi ?
Je serais tenté de dire que cela commence par une bonne formation. Mais vous le disiez, ce n'est plus suffisant. Bien sûr, il y a le curriculum vitae qui doit impérativement être bien rédigé pour donner envie à l'employeur de vous recevoir. Et c'est là le moment le plus important de tous, ce premier rendez-vous. Ça ne s'improvise pas, il faut le travailler. C'est ce qu'a fait ce matin Rowena. Elle a 32 ans, elle est diplômée en restauration, mais veut changer de parcours professionnel. Elle s'est donc présentée ce matin à un atelier de simulation d'entretien d'embauche.
C'était important dans le sens où je n'ai aucune expérience dans le domaine de la livraison. Et cette simulation m'a apporté en fait les conditions réelles d'un entretien d'embauche dans une entreprise qui recrute un chauffeur.
Ça te met en confiance ?
Beaucoup. Et avec beaucoup de conseils aussi.
Des conseils, Lucille Rottier en a justement en plein à donner pour ne pas rater ce premier rendez-vous avec son futur employeur, secrétaire général du MEDEF qui organise, co-organise ce forum étudiant-entreprise. Elle a animé ce matin l'un des ateliers de simulation d'entretien d'embauche.
Le plus important, ça se passe en soi, c'est la confiance et c'est d'y croire. Et ça, c'est tout le travail préparatoire, c'est de s'approprier pleinement un poste. Quand on a envie de ce poste, on se met pleinement en tête, dans les tripes qu'on veut ce poste, on y croit, on se prépare, on se met dans la tête après de l'employeur. Qu'est-ce qui va l'intéresser? En quoi je peux lui être utile? Qu'est-ce qu'il va chercher à savoir? Quelles sont les questions pièges qu'il va me poser? Quelles sont celles qu'il va pas me poser, auxquelles je peux quand même répondre ou apporter des éléments de réponse pour lui donner envie, lui dire que c'est moi la bonne personne et que je veux lui démontrer pendant cet entretien que c'est moi qui dois choisir plutôt qu'un autre.
Le prochain atelier sur comment réussir son entretien d'embauche, c'est demain matin de 10h30 à midi dans la salle G31. À côté de ça, il y a toujours les ateliers de simulation d'entretien. Pensez à vérifier s'il y a encore de la place de disponible pour un tête-à-tête avec un professionnel des ressources humaines.
Merci Cédric. En dehors du forum, sachez que vous pouvez suivre des formations pour être efficace le jour de votre entretien. Il est 12h13, on va arrêter ici ce journal.
Ils ont bu que de l'eau, hein. Je conviens, j'étais témoin.